Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler dans cette nouvelle année liturgique qui commence, cette année selon le lectionnaire de la liturgie, cette année C, c'est-à-dire nous méditons l'évangile de Saint-Luc et nous sommes dans la première semaine, précisément le premier vendredi de la première semaine de l'année liturgique et la première semaine de l'Avent. Je me suis dit qu'il serait bon de nous plonger dans l'évangile. Et à la suite d'un grand missionnaire de la vocation, bien sûr aujourd'hui c'est aussi un autre grand missionnaire, Saint François Xavier, mais un grand missionnaire de la vocation, Saint Jean-Paul II, en contemplant l'évangile selon Saint Luc, cet évangile que nous pourrons contempler durant toute cette année liturgique, de méditer le sens chrétien du mystère de la vocation. Et je voudrais reprendre une expression de Saint Jean-Paul II qui est assez atypique, qui est peu connue, l'évangile de la vocation. Voilà, l'expression « l'évangile de la vocation ». Et pour commencer, peut-être confions-nous au Saint-Esprit pour qu'il éclaire notre cœur et notre intelligence, qu'il nous aide à comprendre ce qu'est le mystère de la vocation dans les Saintes Écritures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu Très-Haut, source vive, feu charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le droit de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allumons-nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force, la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Saint Jean-Paul II écrivit le 25 mars 1992, lors de la solennité de l'Annonciation du Seigneur, le texte sur la formation des prêtres, Pastores d'Abo Vobis, qui est une exhortation apostolique. Et au paragraphe 39, comme je disais, Jean-Paul II a cette parole étonnante, il parle d'évangile de la vocation. Je le cite. Dans l'exercice de sa mission prophétique, l'Église sent que d'une façon inévitable, le devoir lui incombe d'annoncer et de manifester le sens chrétien de la vocation. Elle perçoit aussi en ce domaine l'urgence des paroles de l'apôtre « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'évangile de la vocation et cet enjeu d'évangéliser et donc d'annoncer l'évangile de la vocation? Alors, tout d'abord, frères et sœurs, nous savons que l'évangile, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, telle est la traduction du grec. La bonne nouvelle, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui est retranscrite par les auteurs sacrés. Ils sont quatre, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces auteurs sacrés, chacun selon un angle différent, relatent dans l'Esprit Saint la vie de notre Seigneur. En aucun cas les quatre évangiles se contredisent, mais en réalité ils se complètent. Quand nous parlons aussi de l'évangile, nous parlons d'abord formellement de ces textes sacrés inspirés qui nous donnent la vie de Jésus-Christ. Mais pour aller plus profondément et de manière synthétique, on peut dire que l'Évangile, c'est la personne de Jésus. Jésus est le livre vivant, dirait sainte Thérèse d'Avila, qui nous donne accès au Père. Et donc toute la vie de Jésus, toutes ses paroles sont l'Évangile. Et l'Évangile nous donne la personne de Jésus. C'est tout un. Saint Jean-Paul II, durant son riche pontificat, a décliné la notion d'Évangile. Ainsi, il en a parlé de manière clairement, explicitement, deux fois. Il a parlé je le cite de mémoire, de l'évangile de la vie dans une encyclique Evangelium Vitae, et il a parlé aussi de l'évangile de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évangile, ici, c'est la personne du Christ. L'évangile, comme c'est le Christ, éclaire tout homme, donc toutes les facettes de notre humanité, toutes les facettes du disciple qui veut suivre le maître, donc à la fois la dimension de l'accueil de la vie, comme à la fois la dimension du mystère de la souffrance à la suite du Christ, souffrance rédemptrice. Mais Jean-Paul II emploie aussi l'expression que nous avons citée, l'évangile de la vocation. Ça veut dire que la personne du Christ explique le mystère de la vocation. Ou pour le dire autrement, la personne du Christ dans l'évangile et dans tout l'évangile explique, j'allais dire, des personnes, donne un chemin à des personnes qui se posent la question du discernement vocationnel ou encore aide des accompagnateurs spirituels à se bien se positionner pour le discernement vocationnel ou encore aide à la formation des missionnaires de la vocation. En fait, j'allais dire, pas besoin tellement de théorie de la vocation. Il suffit de lire l'Évangile et de le regarder sous l'angle de l'Évangile de la vocation. Et en cette année où nous méditons l'Évangile selon saint Luc, il est bon de commencer peut-être par les Évangiles de l'enfance, c'est-à-dire le chapitre 1 et 2 selon saint Luc, qui explique les mystères de l'enfance du Christ. Cet éclairage qui permet aussi de nous faire comprendre des choses sur le mystère de la vocation. Et frères et sœurs, je me suis dit que cette année, nous pourrions ensemble écouter l'Évangile selon saint Luc et méditer ce fameux Évangile de la vocation dont parle saint Jean-Paul II à travers saint Luc. Je ne vais pas tout lire, mais ce qui me semble important dans ces deux premiers chapitres, c'est de se rappeler fondamentalement que la parole est annoncée en saint Luc tout d'abord dans un temple et à qui? À un prêtre. Évidemment, c'est l'archange Gabriel qui va apparaître à Zacharie. Zacharie qui n'a pas d'enfant avec sa femme Élisabeth et qui va avoir la surprenante expérience durant son office de prêtre dans le temple, dans le sanctuaire précisément, où il offrait de l'encens, de faire l'expérience d'un messager de Dieu qui annonce une bonne nouvelle, l'archange Gabriel, qui annonce l'évangile de la vocation pour lui, c'est-à-dire qu'il aura un fils qui aura une vocation particulière. Ce fils de prêtre sera prêtre, mais il sera d'abord prophète, un prophète prêtre, Jean le Baptiste. Et donc pour nous, il y a quelque chose à méditer, c'est que l'expérience de l'accueil d'une parole vocationnelle envoyée de Dieu peut se recevoir durant le culte, durant l'exercice, on peut dire, de l'office, de la liturgie, de la messe. Dieu parle pendant l'office. Ainsi, il a parlé à Zacharie. Et pour nous, prêtres, il est aussi important de méditer cela. Dieu peut me parler au niveau vocationnel pendant l'office, comme il l'a fait à Zacharie. Dieu peut me donner des conseils sur ma pastorale vocationnelle pendant l'office. C'est un lieu privilégié, nous dit le magistère de l'Église à la suite de l'exhortation sur la parole de Dieu, Verbum Domini, où effectivement la proclamation de la parole pendant la messe, pendant l'office, dans le sanctuaire, dans l'Église, on peut dire, Dieu parle de manière éminente. Et forcément, il va parler de manière vocationnelle à la foule, mais aussi aux prêtres, aux Zacharie du Nouveau Testament, on peut dire. Ça, c'est très intéressant d'entendre que l'Évangile selon saint Luc commence par un acte de culte qui génère une parole vocationnelle. Et conjointement à cette expérience-là, une parole vocationnelle est donnée dans une toute autre circonstance, qui est le quotidien d'une femme de Nazareth, d'une femme de Galilée, pardon. C'est la Vierge Marie qui, effectivement, a l'expérience du même ange qui vient la visiter et vient lui parler dans son quotidien. On pourrait dire d'un côté, il y a les prêtres, d'un autre côté, il y a le laïcat, mais ça serait peut-être un peu caricatural de limiter la parole de Dieu ainsi, mais on peut dire Dieu peut parler dans le culte comme il peut parler dans l'ordinaire de nos vies. Et l'ange Gabriel entra chez elle. Le messager de la vocation vient rejoindre le quotidien de la personne et la Vierge Marie nous enseigne à la fois sur ses dispositions et sur l'expérience qu'elle va faire sur des attitudes vocationnelles. Tout d'abord, l'expérience est une expérience de paix. Elle est étonnante, elle surprend, si bien que l'ange est obligé de dire à Marie « Sois sans crainte ». Il l'invite à être dans la confiance et dans la paix. C'est ce qui est demandé pour celui qui veut discerner quand le messager de Dieu lui apporte qu'il soit un témoignage, que ce soit une lecture, que ce soit dans la prière, quand quelque chose vient à lui et lui parle de sa vocation, Dieu nous dit « Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Ce qui est propre à la Vierge Marie, c'est qu'elle est la Mère de Dieu. En cela, elle a une vocation imminente que personne d'autre a. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui est donné à la Vierge Marie comme l'Esprit Saint qui va couvrir la Vierge Marie de son ombre est donné aussi à toute personne qui veut discerner sa vocation. Et tout accompagnateur spirituel peut entendre cela. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, carme du XVIe siècle espagnol, parle d'ombromation. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est la descente du Saint-Esprit qui crée de l'obscurité, de l'ombre. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que quand Dieu parle, et a fortiori quand Dieu parle une parole vocationnelle, Dieu fait de la lumière et de l'ombre. Il y a quelque chose qui est connu, et pourtant il y a quelque chose qui demeure insaisissable, qui a une trace d'infini qu'on ne saurait enfermer, dont la destinée nous est cachée. Et c'est tout à fait normal quand quelqu'un reçoit une parole vocationnelle à la suite de l'archange Gabriel, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le médiateur et les moyens pour que Dieu parle, il y a une forme d'ombre qui s'installe sur la personne. La personne ne sait pas exactement comment cela va se passer, ni où ça va. Il est dit en Saint Jean que l'Esprit Saint, nous ne savons pas ni d'où il vient ni où il va. Il y a une forme d'ombre. Et cela doit, pour les accompagnateurs spirituels, pour les prêtres, garder une forme de discrétion, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller plus vite que la grâce, et Dieu se réserve le droit de révéler en son temps le mystère de la vocation de quelqu'un. Tout d'abord, la vocation sera connue parfaitement au ciel, parce que notre vocation nous aide à aller au ciel. Elle est un mystère. Donc, on ne peut pas en faire le tour avec sa raison raisonnante. C'est plutôt sa raison dans la foi qu'il faut utiliser. Or, la foi est obscure et Dieu nous cache des choses pour mieux nous conduire, pour que nous soyons dans la démaîtrise. Il en est ainsi de la Vierge Marie, nous dit le magistère qui a fait un pèlerinage dans la foi pour bien comprendre les paroles que l'archange Gabriel lui avait dites. Il en est ainsi pour quelqu'un qui reçoit une parole vocationnelle. D'où le très grand respect quand nous accueillons des jeunes qui reçoivent des paroles vocationnelles de Dieu, soit directement, soit indirectement. Elles ont toujours une trace d'ombre, de mystère, de transcendance qui s'éclairera que dans le temps. Et à nous de savoir respecter ce mystère. Cette expérience est importante, mais les dispositions de la Vierge le sont tout autant. La Vierge Marie dit « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Alors il est très intéressant de comparer l'attitude de Zacharie le prêtre avec la Vierge Marie. Cela semble être la même interrogation. Zacharie dit « Comment vais-je savoir que cela arrivera ?» Mais en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Et la Vierge Marie semble poser une question. Simplement, la suite de la parole de Dieu nous montre effectivement que ce n'est pas la même chose. Pour l'un, Zacharie a douté. Et pour l'autre, la Vierge Marie, ce n'est pas un doute. C'est une collaboration de l'intelligence, nous dit Saint Jean-Paul II. Elle a voulu y participer avec toute son intelligence alors qu'elle désirait intérieurement rester vierge et vouloir comprendre, c'est-à-dire se consacrer à Dieu. La Vierge Marie a déjà le désir, selon la tradition pluriséculaire de l'Église. Les spirituels nous enseignent que la Vierge Marie, c'est encore une fois l'enseignement récent de Saint Jean-Paul II, qui nous rappelle que la Vierge Marie voulait rester vierge et voulait rentrer dans son intelligence voulait collaborer au plan de Dieu. Donc une première disposition, tout en accueillant le mystère qui nous dépasse, c'est de vouloir avec son intelligence collaborer, en acceptant que cela nous dépasse, mais vouloir, j'allais dire, investir sa vocation. Une deuxième chose, c'est des dispositions, j'allais dire, comme dirait Saint Ignace, aujourd'hui nous fêtons un jésuite, François-Xavier, marqué de 15 ans plus jeune qu'Ignace, un jésuite marqué par les exercices qu'il a fait à Paris et qui sera un missionnaire, et bien c'est la fameuse sainte indifférence. La Vierge Marie a profondément cette sainte indifférence, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas son intérêt, elle cherche à faire la volonté de Dieu. « Je veux ce que Dieu veut », elle pourrait dire. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Là, nous voyons plusieurs choses. Dieu peut nous rejoindre dans le quotidien. Il peut parler. Quand il parle, il y a de la lumière qui apaise. Il apporte grâce et confiance, sois sans crainte. Et en même temps, il apporte un mystère transcendant qui est obscur pour l'intelligence. La personne peut l'investir, essayer d'y rentrer, comme c'est un mystère d'un puits sans fond. La personne y rentre en voulant y collaborer, comme elle peut. Et le plus profond, c'est cette simple disponibilité, cette indifférence, cette juste indifférence, je veux ce que Dieu veut, en étant fidèle à la parole reçue, que tout m'advienne selon ta parole. Il y a donc là un enseignement sur la disponibilité des cœurs, la capacité d'écoute, le respect de la grâce et en même temps la collaboration humaine. C'est vrai pour tout jeune, c'est vrai pour tout accompagnateur. Dans le deuxième partie de ce premier évangile, nous avons la rencontre de la Vierge Marie qui du coup est enceinte et qui va rencontrer celle qui est aussi enceinte, Élisabeth, sa cousine, enceinte de 6 mois plus tôt. Pour les deux, la parole vocationnelle a été donnée soit directement, soit bien indirectement par Zacharie. Et là encore, nous sommes enseignés sur l'expérience de Dieu dans une vocation, quelle qu'elle soit. La première chose, c'est que quand Dieu nous visite, il nous est donné à un moment donné, soit directement, soit indirectement, une autre visitation. C'est celle de la Vierge Marie. Ainsi, Élisabeth fut remplie de l'Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Dans une vocation, je pense particulièrement aux prêtres, qu'on appelle les fils de prédilection de la Vierge Marie, ou encore les consacrés, mais c'est vrai pour les mariés, puisque nous avons dans la tradition iconographique Notre-Dame du Bel Amour, c'est-à-dire qui veille sur les fiançailles, sur le mariage entre un homme et une femme sacramentellement. Mais nous avons la visite de la Vierge Marie qui va aider à la croissance de cette vocation. Et que se passe-t-il dans la personne qui est visitée par la Vierge Marie? L'enfant tressaille en elle. Alors c'est vrai physiquement pour Élisabeth, mais c'est vrai aussi pour tout chrétien qui est visité par Dieu et par la Vierge Marie, qui reçoit une vocation ou qui est renouvelé dans sa vocation, il y a une forme de grâce filiale vis-à-vis du Père, notre Père céleste, mais aussi vis-à-vis de notre Mère spirituelle, la Vierge Marie, une grâce filiale qui va nous permettre d'avoir encore plus confiance. Et du coup, en nous, spirituellement, l'enfant tressaille. C'est comme si nous devions prendre la petite voix de Sainte Thérèse. La Vierge Marie a ce très beau chant inspiré de l'Esprit. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Et un peu plus loin, elle dira « Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. » C'est le fameux Magnificat. Qu'est-ce qui nous est dit dans cette parole inspirée de l'Esprit? C'est d'abord une grâce pour Israël qui a été visité par le Seigneur et qui reçoit le don du Messie. C'est une grâce propre pour la Vierge Marie, mais c'est aussi une grâce pour tous ceux qui reçoivent une vocation. Là encore, je pense particulièrement, mais c'est vrai pour chaque vocation, vraiment. Mais je pense parfois à ces anniversaires de mariage, à ces anniversaires de consécration aussi sacerdotale, ces fameux jubilés, où par exemple récemment un confrère a fêté ses 25 ans de sacerdoce, il chantait son Magnificat, rendre grâce pour le don reçu. Dieu a été fidèle. Cette expérience que Dieu a donné une parole, des fois dans l'obscurité, un mystère. Et Dieu a été fidèle à cette parole. Effectivement, Dieu a la suite dans les idées. De notre côté, nous ne sommes pas toujours fidèles aux paroles de Dieu, c'est là le drame. Mais quand Dieu donne une parole, un critère de discernement pour les accompagnateurs spirituels et pour celui qui veut discerner sa vocation, c'est que Dieu va se répéter. Non pas parce qu'il est buté ou têtu, mais parce qu'effectivement, pour notre cœur qui a du mal à entendre Dieu, entendre sa parole, il va se répéter d'une manière différente parce qu'il est fidèle à la parole qu'il a donnée. Il a été fidèle à la promesse faite à Israël. Eh bien, frères et sœurs, nous allons prier pour demander des vocations, puis nous continuerons le mois prochain avec ce fameux évangile de la vocation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen.
Amen.
Ô Père, c'est dans la confiance et l'abandon que nous venons te supplier. Fais qu'autour des autels eucharistiques se lèvent des âmes généreuses qui sachent répondre à ton appel en devenant prêtres, consacrés, religieux et religieuses. Ô Jésus, pasteur de nos âmes, ton cœur brûle du désir de te donner à travers les âmes consacrées sacerdotales. Permets que les jeunes soient transformés dans ton amour, qu'ils puissent discerner dans la paix et la liberté le chemin de bonheur que tu veux pour eux. Ô Marie, aide-nous à contempler auprès de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils. Garde les prêtres dans le cœur, dans ton cœur et dans l'Église. Cœur du Christ, grand prêtre, nous avons confiance en toi. Et frères et sœurs, travaillons ensemble à annoncer la beauté des vocations et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Un grand merci.
Bon avant à chacun. Au revoir.